marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Les routes de l'esclavage.
Sur cette vidéo tournée de nuit, on voit des jeunes gens alignés, on entend une voix qui dit « des hommes forts pour les travaux de la ferme », puis les enchères débutent. 400, 700, 700, 800, ces hommes sont vendus pour 1200 dinars libyens, environ 750 euros. C'est après avoir reçu l'été dernier cet enregistrement vidéo que CNN est allé enquêter sur place en Libye et courant octobre dans la banlieue de Tripoli a pu voir les mêmes scènes.
You are watching an auction of human beings.
Vous êtes en train d'assister à une vente aux enchères d'êtres humains, dit la journaliste Nima El Baghir, visiblement sous le choc. Sur place, dans les centres d'accueil pour migrants, les reporters recueillent d'autres témoignages, comme celui de ce Nigérian de 21 ans. Il s'appelle Victory. J'ai été vendu.
C'était un reportage de CNN l'an passé des migrants esclavisés après leur entrée en Libye. Ces images, on le sait, ont provoqué une grande émotion. Les habitants de l'Afrique subsaharienne ont eu le sentiment de voir se rejouer une tragédie très ancienne qui ne voulait pas quitter la scène, qui ressurgissait en 2017 comme un revif du passé. France Inter, on a entendu Grégory Philippe, ça fait le choix d'en donner la transcription la plus sobre possible. D'autres, comme BFM, en ont fait un mélodrame dont les véritables héros s'avéraient être les journalistes. Gilets multipoches sur le dos, caméra à l'épaule, ils étaient glorifiés pour avoir démasqué des trafiquants de chair humaine. Arte préfère à la télévision un autre travail. Ce 1er mai, elle propose donc une soirée entière en 4 épisodes consacrés aux routes de l'esclavage. L'Afrique y occupe une place sans pareille. Il apparaît que non seulement l'institution de l'esclavage qui n'y disparaît pas du jour au lendemain, remonte plus haut que les Africains ne le pensaient généralement, et que ces routes ont dessiné sur le continent un véritable écheveau. Le travail auquel doivent s'atteler les Africains est difficile. D'un côté, leur conscience est heurtée par les reviviscences de l'esclavage. De l'autre, ils apprennent sur lui ce que les spécialistes seuls savaient jusqu'ici.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Catherine Kokri-Vidrovitch, bonjour.
Bonjour.
Et nous apprenons aussi beaucoup. Quelques 35 historiens participent à ce grand travail documentaire. Vous êtes servi de ce qu'ils apportent depuis quelques années et vous avez fait, parallèlement à cette série, un livre, Les routes de l'esclavage, chez Albin Michel. Un sujet que vous connaissez depuis longtemps, mais vous avez néanmoins, vous aussi, appris beaucoup. Et est-ce qu'on peut d'abord s'interroger sur le mot esclavage ? Vous expliquez que les spécialistes de plus en plus disent être esclavisé, c'est sans doute préférable à être mis en esclavage. Quelle est la différence ?
C'est plutôt différent, être esclavisé est différent de être esclave. Être esclave, c'est un peu l'expression qui était utilisée du temps de l'esclavage par les maîtres des esclaves et qui incitait à penser qu'on était esclave par nature. Or, on devient esclave. On devient esclave, d'ailleurs, soit par naissance, si ce sont les parents ou les grands-parents qui ont été esclavisés, mais il y a toujours à l'origine quelqu'un qui ne l'était pas. Et c'est un élément très important pour montrer que l'esclave n'est pas quelque chose de naturel, comme le pensaient les Occidentaux au XVIIe et au XVIIIe siècle, pour qui il était devenu évident, mais c'est une affaire tardive, que être noir c'était fait pour être esclave et les esclaves étaient tous noirs. Ça, c'est nouveau au XVIIe siècle.
Donc la question de la couleur, c'est une affaire immémoriaux, tardive.
Il y avait énormément d'esclaves, dont la grande majorité d'ailleurs était probablement blanc, puisqu'ils venaient plutôt d'Eurasie.
Alors vous êtes une historienne émérite de l'Afrique. On va faire deux parties. Parler dans la deuxième partie des Portugais, à partir du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIe, dans la première partie des Arabes, à partir du VIIe siècle, de la montée de la puissance arabe. Historienne émérite de l'Afrique, vous savez qu'il est attesté quand même que l'esclavage existait avant l'islam en Afrique. Les voyageurs arabes eux-mêmes l'ont constaté.
Mais l'esclavage a existé avant l'islam partout, probablement partout, depuis des temps immémoriaux. Mais on ne le connaît par des sources précises qu'à partir du moment où vous avez des esclavagistes qui ont témoigné par écrit, ne serait-ce que par l'achat d'esclaves. Ils étaient achetés avant ou échangés, mais on n'écrivait pas. Et les sources sont importantes à partir effectivement du développement des grands empires arabo-musulmans médiévaux qui arrivent dans des pays où il y avait des esclaves et qui vont quelquefois traiter avec certains de ces pays. C'est le cas des Arabes d'Égypte qui vont faire la paix avec les Nubiens dès la fin du 7e siècle, les musulmans, mais à condition que les Nubiens leur payent 250-300 esclaves par an. Ce qui est la preuve que l'esclavage existait déjà avant.
Alors le Caire, ça c'est un traité signé par le gouverneur du Caire. Le Caire est d'abord Bagdad. À tout seigneur, à tout calife, tout honneur.
Au IXe siècle, l'Empire est à son zénith. Bagdad est la capitale de toutes les richesses, de tous les savoirs, de tous les plaisirs.
Je pénétrais dans un grand édifice dallé de marbre, où je trouvais le calife dans une salle d'audience dont les murs et le sol étaient recouverts de plaques de marbre entourées de filets d'or. Le calife était assis sur une estrade couverte d'un tapis rouge et portait des vêtements écarlates. Il était parfumé au musc et à l'ambre gris. Devant lui était posé un vase d'or plein de grains de musc qu'il remuait de la main. Il répondit à mon salut et me laissa approcher de lui jusqu'à lui baiser le pied. J'aperçus alors deux esclaves telles que je n'en avais jamais rencontré de pareilles. Elles portaient chacune une paire de boucles d'oreilles d'or incrustées de perles éclatantes.
Dans un manuel publié au XIe siècle, le médecin irakien Ibn Butlan donne ses recommandations pour bien choisir ces produits de luxe que sont les esclaves.
Le caractère de votre esclave sera déterminé par la façon dont vous le traiterez au moment où il rentrera dans votre maison pour la première fois. Si vous l'enhardissez, il deviendra hardi. Si vous le dressez, il sera obéissant. Et s'il s'associe avec des mauvais esclaves ou d'autres mauvais gens, il sera mauvais.
Des esclaves comme je n'en avais jamais vu de pareil, des esclaves d'Afrique. Mais la route ou les routes qui viennent d'Afrique et qui mènent à Bagdad sont peut-être moins importantes pour Bagdad que, je ne sais pas moi, la route au nord de la Volga.
Toutes les routes arrivaient vers Bagdad et évidemment, il y avait des esclaves africains que l'on s'est mis à appeler les esclaves Zandj. Zandj désignant les esclaves qui venaient de la côte orientale d'Afrique sur l'océan Indien. Et au fur et à mesure que l'esclavage noir a augmenté, Zandj est devenu synonyme d'esclave. Mais ça n'était pas le cas au démarrage. Ceci dit, en Mésopotamie, il y a eu une énorme concentration d'esclaves, en particulier des travaux agricoles extrêmement durs. Il fallait creuser, piocher dans la couche de sel sur le sol pour pouvoir arriver à cultiver. Cela demandait des concentrations d'esclaves énormes. C'est à ce moment-là que Bagdad a fait appel aux Zandj en particulier, qui étaient probablement majoritaires, mais qui n'étaient pas du tout les seuls sur le sol dans cette région. Et ça donnait lieu, cet grand amas de population servile a donné lieu à une énorme révolte au IXe siècle.
Qui a duré plus d'une quinzaine d'années,
qui a déstabilisé pendant une trentaine d'années, qui a failli l'emporter. J'étais limite.
Et ça partait de
Bassora,
un leader arabe, voyant le sort des esclaves, les a levés en armée.
Absolument. Et à penser qu'ils étaient les plus misérables et donc les plus susceptibles de se soulever. Cet événement aurait provoqué, selon les auteurs qui l'ont rapporté, entre 500 000 et 1 million de massacres d'esclaves.
Donc, d'où la recommandation du médecin du XIe siècle, qu'on entendait tout à l'heure, donc une recommandation plus tardive. Fais attention, ne laisse pas les mauvaises influences jouer chez des esclaves.
Oui, et d'où...
Et isole-les peut-être.
Et d'où la non-généralisation à partir de cette date, probablement pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, du système de plantation esclavagiste dans le monde arabe. Les esclaves étaient essentiellement la domesticité, mais au sens très très large, c'est-à-dire tous les travaux nécessaires pour faire marcher une ville, une province, les routes, et évidemment les maisonnées.
Vous parliez tout à l'heure de l'Égypte, Catherine Kokri-Vidrovitch. Le Caire est une capitale très importante, surtout quand le califat fatimide s'installe en Égypte pour les caravanes d'esclaves. Alors ces caravanes franchissent le Sahara, passent aussi au sud, se greffent avec les routes qui viennent du Maghreb avec des nœuds. Et ces nœuds sont tenus par d'autres que les Arabes. Pas seulement par les Arabes, en tout cas.
Ben oui, bien sûr. Le Caire, qui était Fustat à l'époque, devient le grand centre du commerce international de l'époque, avec des commanditaires qui sont beaucoup d'Arabes, mais qui utilisent, pour l'Afrique en particulier, toutes les caravanes berbères, qui sont beaucoup plus nombreux. Les berbères sont beaucoup plus nombreux en Afrique du Nord que les quelques Arabes, les quelques milliers d'Arabes qui sont venus d'Arabie pour conquérir le pays à la suite de Mahomet à partir du 7e siècle. Donc les grands agents caravaniers en Afrique, pendant une grande période et jusqu'à pratiquement nos jours, ce sont en fait les berbères sahéliens, les berbères sahariens, les berbères du sud des provinces du nord de l'Afrique.
Ce n'est pas que je veuille rétribuer également les responsabilités, mais la documentation sur ce qui se passe en matière de trafic d'esclaves au Caire vient pour une bonne part des découvertes faites à la fin du 19e siècle dans une synagogue du Caire et qui rendent compte donc des activités de marchands juifs.
Alors on a la chance, et en même temps ça déséquilibre un petit peu les sources, on a la chance d'avoir un fonds extraordinaire qui a été retrouvé, des textes de comptabilité, et essentiellement juive de Fustat, le Caire, entre le 10e et le 12e siècle, sur pratiquement 3 siècles, on a des milliers de documents, donc beaucoup de documents. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été conservés? Parce que probablement ils étaient entassés dans une enceinte qui a été ensuite oublié, sans doute destiné à être enterré, parce qu'on ne détruisait pas des textes qui risquaient de contenir le nom de Dieu. Ça a sauvé les archives et ça fait le bonheur des historiens qui pensent que le commerce à Fustat, pratiqué par les juifs commerçants, était tout à fait analogue à quelques traces qu'on a du commerce pratiqué par les Arabes au même moment. Donc c'est très instructif pour montrer à quel point la domesticité au sens large, c'est-à-dire tous les travaux, et en particulier les travaux sales, comme transporter des excréments dans une grande ville, c'était très important, etc., etc., était le fait d'esclaves, et d'esclaves qui étaient souvent des esclaves dits zandes.
Les royaumes de l'Ouest, le Ghana, plus tard l'Empire du Mali, fournissent en esclaves, mais pas seulement en esclaves. L'Afrique de l'Ouest regorge d'or, dit-on à l'époque. Vous citez aussi un royaume du côté de Ouagadougou actuel, le Moro-Naba, qui lui fournissait en eunuques. Alors, excusez la vulgarité de ma question. Ainsi donc, les Africains vendaient leurs frères?
Les Africains n'étaient pas frères. Je donne toujours l'exemple des Français et des Allemands qui ont fait 3 guerres épouvantables, qui sont tous blancs. Et être blanc ne rend pas frère. Tout le monde était noir en Afrique subsaharienne. Et par conséquent, il y avait des dizaines, des centaines de systèmes politiques différents, de gens qui tantôt vivaient en paix, et puis de temps en temps se faisaient la guerre. Et se faire la guerre, c'était très important justement pour faire des esclaves, parce que les esclaves étaient étrangers. On n'allait pas vendre ses propres sujets, précisément. On vendait les ennemis.
Il pouvait aussi y avoir des esclaves blancs.
Oui, bien sûr. Alors, il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais on parle de quelques esclaves blancs, précisément dans le royaume dans l'Empire du Mali, par exemple. Et d'ailleurs, en Méditerranée, les Blancs et les Tudorés du Sud se faisaient esclaves les uns les autres.
On parle là du trafic d'Ouest en Est. Il faudrait dire un mot du trafic du nord au sud, mer Rouge, océan Indien. Il est moins documenté pour la période, disons notre Moyen-Âge, dont nous parlons à présent, encore qu'on trouve un esclave noir à Canton. Il a bien dû venir par cette route que je viens de citer.
Mais on le voit sur une soierie du Xe siècle. C'est le commerce dans l'océan Indien, tout le long, le commerce côtier depuis la Chine jusqu'à l'Inde, l'Arabie et l'Afrique est extrêmement ancien. Il date largement avant notre ère. Et il a été très actif dans notre premier millénaire, en particulier avec les Indiens et les Swahili, qui est la culture et la langue bantoue, avec des influences perses, arabes, etc., qui va se développer à partir du 8e siècle. Et tous ces gens sur la côte pratiquent en particulier l'esclavage.
Et le trafic peut descendre le long de la côte jusqu'à Zanzibar, où l'esclavage deviendra une activité très importante beaucoup plus tard, à partir du 18e siècle. Mais les Portugais vont arriver. Deuxième partie, les Portugais, à partir du 15e siècle, dans cette zone de l'Afrique du Sud-Est. C'est une musique un peu tardive, 18e siècle, de Zanzibar.
L'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Les navigateurs portugais se mirent à longer les côtes d'Afrique à la recherche du pays de l'or. Les Hollandais, les Français, les Anglais les suivirent.
Alors les Portugais, d'abord les routes de l'esclavage, c'est une soirée d'Arte, demain 1er mai, et puis c'est un livre chez Albin Michel de Catherine Kri-Vidrovic, ici présente. C'est un petit royaume nerveux, un peu agressif, pas très peuplé, dont l'objectif est d'abord Ceuta, au nord de l'Afrique, et puis il s'agit ensuite de longer les côtes, de s'installer éventuellement dans des îles, même le Cap Vert, désert. Le long des côtes aussi, si on arrive à nouer des liens avec les chefs côtiers dans des forts, et on est à la recherche des produits rares. Et parmi les produits rares, il y a l'or et les esclaves.
L'or est fondamental. L'or de l'Ouest africain est fondamental pour l'Europe occidentale parce que c'est là qu'il y en a le plus. Probablement 80% de l'or du monde, d'ailleurs, partait d'Afrique, soit d'Afrique occidentale, soit d'Afrique australe vers l'océan Indien, avant la découverte de l'or brésilien en particulier. Et les Portugais voulaient trouver les sources de l'or, parce que l'or débarquait depuis très longtemps sur les côtes méditerranéennes, mais il était apporté par les caravanes berbères et puis ensuite transmis par les Arabes sur la Méditerranée. Et ils apprennent où sont les sources de l'or par un atlas fameux, l'atlas catalan, 1375. 1375, il est donné au roi de France. Et donc, l'Occident connaît l'ensemble de l'Afrique à ce moment-là.
Parce qu'ils connaissent les Européens de cette époque-là, l'existence de royaumes fabuleux.
Le royaume en particulier du Cancan Moussa, qui est un souverain de l'or, l'empereur du Mali de l'époque.
Juste une remarque, hein, quand on a essayé d'introduire dans les manuels d'histoire l'histoire des empires d'Afrique, on a dit que c'était inutile, simplement au XIVe siècle on le savait.
Mais bien
on savait
sûr,
qu'ils existaient et que c'était fondamental. Bon, c'était juste une parenthèse.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un de mes désespoirs.
Mais il y avait une autre justification qui était mise en avant. Je sais que, utilitariste, vous allez me dire qu'elle était plutôt un paravent qu'une réalité. C'était la christianisation. Et les Portugais s'enchantent de l'existence sur les bords du fleuve Congo, une région que vous connaissez particulièrement, d'un système centralisé à la tête duquel on va pouvoir installer un roi, le roi Afonso, qui va correspondre avec le roi du Portugal parce qu'il apprend le portugais et il devient chrétien. Et là, on nous dit qu'il y a un système d'échange équilibré, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, il est inventé par les Portugais en Afrique occidentale, en fait. Ils veulent l'or, précisément l'or sur la côte de l'or, qui a donné le nom de Gold Coast, puis maintenant qui est le Ghana actuel, qui n'a rien à voir avec la situation du Ghana médiéval sur la côte occidentale. Cet or, les gens de la côte doivent l'obtenir de l'intérieur, et les gens de l'intérieur, pour leur vendre de l'or, demandent des esclaves. Donc, les Africains de la côte vont recevoir des esclaves que les Portugais vont leur importer depuis la côte congolaise. Et donc, vous avez un échange entre esclaves, or et produits portugais qui vont finalement obtenir l'or contre des marchandises qui se met en place en Afrique occidentale au XVe siècle alors que l'Amérique n'est pas encore découverte.
Oui, mais alors pourquoi le roi du Congo qui fait une alliance avec le roi du Portugal en vient-il à lui écrire cette lettre fameuse ? Nous sommes toujours à la fin du XVe siècle.
Seigneur, votre Altesse doit savoir que notre royaume va à sa perdition. Vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s'établir dans ce royaume, d'y monter des boutiques, d'y vendre des marchandises, même celles que nous interdisons. Les marchands enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Ils les enlèvent et ils les vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. C'est pourquoi nous demandons à votre Altesse de bien vouloir nous aider. C'est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traite, ni de transit d'esclaves.
Parce que, à vous lire, Catherine Cochry-Vidrovitch, ce royaume du Congo, c'est le plus grand désordre. Chacun peut devenir l'esclave de l'autre.
Mais oui, le roi Afonso était un roi probablement un politique très intelligent. Quand il a vu arriver les Portugais avec des marchandises intéressantes, il s'est pensé qu'il pourrait développer son pays. Mais il s'est fait avoir. Il s'y avait très vite et cette lettre montre qu'il a compris assez vite qu'en réalité il avait été trompé, mais c'était trop tard. Et à ce moment-là, la traite est devenue de plus en plus intense avec les Portugais et de plus en plus dévastatrice parce que précisément elle commençait à atteindre le royaume lui-même.
Autre laboratoire plus brutal, nous sommes plus au nord, toujours à la même époque, dans les dernières années du XVe siècle, nous sommes à Saint-Thomé et là, on va mettre en place, du côté portugais, un système de plantation. Mais attendez, les planteurs, ils n'ont pas les moyens d'en fournir, les Portugais.
Alors, les échanges entre Portugais et Africains jusqu'à Saint-Thomé étaient des échanges, disons, assez égalitaires, comme avec le roi du Congo. Ils faisaient des affaires ensemble et il n'y avait pas de subordination des uns par rapport aux autres. Mais à Saint-Thomé, les Portugais vont importer une plantes, dont les plantations existaient jusque-là en Inde, en Égypte, mais arrivent en Méditerranée et de là à Saint-Thomé. Saint-Thomé est une île tropicale, humide, avec toutes les conditions pour que la canne à sucre soit développée. Alors, la canne à sucre est un produit extrêmement rare et cher, précisément pour le sucre, pour l'Occident. Les Portugais vont, avec les descendants créoles, métis, tous ceux qui ont la profession sur la côte occidentale d'Afrique de faire du commerce entre l'Afrique et le Portugal, se disent portugais, parlent portugais, et à l'époque, leur couleur importait peu. C'est au XVIIe siècle que ça va devenir très racial. Et donc, ils inventent la plantation avec des esclaves qu'ils vont acheter sur les côtes et qui vont être tenus par des planteurs qui sont un peu portugais, mais surtout créoles, métis et parfois africains aussi. Et c'est vraiment l'invention de la plantation telle qu'elle partira à partir de 1500 vers le Brésil.
Juste une parenthèse, en 1493, des juifs déportés ont été employés dans cette plantation qui n'ont pas laissé de traces puisqu'ils ont disparu
non,
très vite.
Non, c'était des enfants juifs, probablement orphelins ou considérés comme orphelins, chassés par les rois très catholiques de la péninsule ibérique, qui sont importés à Saint-Thomé. Ils sont presque tous morts très rapidement. Ils n'ont pas survécu.
D'autres qui survivent, plus adultes, peuvent mener des révoltes. Ici, une correspondance de la fin du XVe.
À Sao Tomé, joyau de l'Empire, l'édifice sucrier se fissure. L'île est un territoire impossible à contrôler. Au cœur de la forêt, des groupes d'esclaves fugitifs établissent des mocambo, ces lieux de refuge où ils s'organisent en communautés armées.
Nous, Gonzalo Alvarez et Rodrigo Yeres, juges de paix sur cette présente île de Sao Tomé, alertons vos excellences sur la véracité de l'existence d'un mocambo dans la forêt qui est très peuplée et qui nous fait énormément de tort, tuant et volant les hommes et détruisant les plantations, ce qui amène préjudice aux occupants de l'île ainsi qu'à votre Altesse le Roi et au profit qu'elle tire de cette île. Messire, nous avons des hommes armés prêts à se battre contre le mocambo fortifié, mais nous n'avons pas d'argent pour les payer. Et chaque jour, la forêt se remplit de plus en plus avec des noirs en fuite et nous sommes terrifiés dans l'attente du jour où ce mocambo et ses habitants feront un mal qui est contraire à la volonté de Dieu.
Nous avons commencé avec les anges en révolte à Bassora. Voici le mocambo de Saint-Thomé. D'ailleurs, Saint-Thomé va devoir replier la voilure.
À Saint-Thomé apparaît le premier grand phénomène des ce qu'on appelle les esclaves marrons, c'est-à-dire les esclaves fugitifs qui se réfugient dans les bois, qui s'organisent et qui vont attaquer, ravager l'île, véritablement brûler les plantations, détruire les plantations, ce qui font que les Portugais qui viennent de découvrir le Brésil en 1500 et les planteurs décident de plier bagages, démonter leur moulin et d'emporter le tout au Brésil. Ils vont importer le système de la plantation et le système des plantations esclavagistes et des plantations de canne à sucre à partir de 1500 et à partir de Saint-Thomé.
Donc, nouvelle aventure transatlantique de l'esclavage après le chapitre 4 dans votre livre, Les routes de l'esclavage chez Albin Michel. Et puis, c'est la troisième et la quatrième partie de la soirée de demain consacrée par Arte aux routes de l'esclavage. C'était très prudent d'amener des Noirs en Europe dans ces conditions. 300 000 Noirs au 15e, 16e, amenés par les Portugais.
Mais l'Amérique n'existait pas au 15e siècle, donc les Portugais ont importé leurs esclaves, 150 000 esclaves au Portugal, au 15e et encore 150 000 au 16e, qui servaient partout, c'est-à-dire de main-d'œuvre servile pour toutes les mauvaises tâches.
Ça ne se disait pas trop sous Salazar, mais les archives s'ouvrent, le nombre de spécialistes au Portugal, au Brésil et puis dans le monde entier de la question croît et beaucoup de surprises nous réserve le passé. En ce domaine, l'émission était préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Linka Negulesco. Martin s'est lié à la réalisation Valérie à Estaraï, Nicolas Cazot, à la technique. Je donne juste le sujet de Mathieu Vidard. C'est une grande question. Parlez-vous cerveau?